France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mosna-Savoie.
Cette semaine, c'est la philosophie d'un anti-philosophe que nous explorons, Blaise Pascal. Et aujourd'hui, une question fondamentale, surtout pour notre époque pétrie de développement personnel, qui ne cesse de se demander comment devenir soi-même, comment être soi ou comment améliorer son moi. Cette question fondamentale donc, le moi existe-t-il? Et d'ailleurs, qu'est-ce que le moi?
Qu'est-ce que le moi? Un homme qui se met à la fenêtre pour voir les passants. Si je passe par là, puis-je dire qu'il s'est mis là pour me voir? Non, car il ne pense pas à moi en particulier. Mais celui qui aime quelqu'un à cause de sa beauté, l'aime-t-il? Non, car la petite vérole qui tuera la beauté sans tuer la personne fera qu'il ne l'aimera plus. Et si on m'aime pour mon jugement, pour ma mémoire, m'aime-t-on moi? Non, car je puis perdre ses qualités sans me perdre moi. Où est donc ce moi s'il n'est ni dans le corps ni dans l'âme? Et comment aimer le corps ou l'âme sinon pour ses qualités, qui ne sont point ce qui fait le moi puisqu'elles sont périssables? Car aimerait-on la substance de l'âme d'une personne abstraitement et quelques qualités qui y fussent? Cela ne se peut et serait injuste. On n'aime donc jamais personne, mais seulement des qualités. Qu'on ne se moque donc plus de ceux qui se font honorer pour des charges et des offices, car on n'aime personne que pour des qualités empruntées.
Et pour se demander qu'est-ce que le moi, deux invités, bonjour, bienvenue à vous, bonjour Laurence de Villers.
Bonjour Géraldine Mosna-Savoie.
Vous êtes philosophe, spécialiste du XVIIe siècle de philosophie morale, vous avez soutenu une habilitation à diriger des recherches sur Pascal, et bonjour à vous Hélène Michon, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences à l'université de Tours, vous y enseignez la littérature du XVIIe siècle, et vous avez écrit plusieurs ouvrages sur Pascal. Alors on vient d'entendre un peu un texte canonique de Pascal, qu'est-ce que le moi? Où est le moi? Ce texte nous permet de poser le cadre de notre échange. Première question, quel rapport entre le moi de Pascal et le moi dont on parle aujourd'hui, dont parle le développement personnel, qui, je le dis, même si on critique le développement personnel, est quand même une question qui se diffuse, peut nous toucher, peut nous influencer. Tout le monde se pose la question d'être bien avec soi-même, de s'améliorer soi-même. Est-ce la même question entre le moi de Pascal et le moi contemporain? Qui veut répondre en premier? Laurence de Villers.
Alors, je dirais que c'est la même question, au risque de surprendre.
Oh
par...
Oui.
La même question et pas la même question. Je commence par...
Vous êtes philosophe.
Je commence par la même question. Parce que ce qui est surprenant chez Pascal, alors qu'on insiste sur l'aspect critique de sa conception du moi, il ne renonce pas au programme que je dirais socratique ou cartésien de se connaître. Il le maintient, mais... c'est un chemin semé d'embûches. Mais il maintient ce programme qu'il faut se connaître. Et pourquoi ça peut être proche des questions qu'on se pose de nos jours? Parce que Pascal associe la possibilité ou la nécessité de se connaître à le fait de régler sa vie. J'emploie les termes qui sont les siens. Donc, il dit qu'il faut se connaître soi-même, si, encore que cela ne servirait pas, je dis de mémoire, mais Hélène Michon me corrigera, ne servirait pas à trouver le vrai, cela... au moins sert à régler sa vie et il n'y a rien de plus juste. Et je pense que dans le développement personnel, il y a cette idée qu'il faut se connaître pour mener une vie qui nous ressemble, ou en tout cas la meilleure des vies. Donc, Pascal peut nous parler. Et en même temps, la réponse qu'il va offrir est à l'encontre de quelque chose qu'on pourrait appeler comme le narcissisme du développement personnel, avec l'idée que le moi serait la chose la plus importante, la plus essentielle de nos vies. D'une certaine façon, chez Pascal, le moi est insignifiant. Il est insignifiant parce qu'il n'est jamais lui-même. En fait, il n'est pas à la hauteur de ce programme de se connaître soi-même, pour au moins deux raisons. D'abord parce qu'il s'aime, et s'aimer fait deux drames.
Qu'en fait, l'amour-propre, donc, je note l'amour-propre.
L'amour-propre, c'est le premier drame, parce que l'amour-propre, c'est pas vous. On pourrait dire, avec un vocabulaire évidemment qui n'est pas celui de Pascal, que c'est un faux self. Vous construisez un moi à aimer, mais c'est pas vous. Et le deuxième drame, c'est qu'en réalité, on ne sait pas où est le moi pour pouvoir l'aimer. Qu'est-ce qui fait que je suis moi ? Mes qualités, française, blonde, alors je vais reprendre ces exemples, hein, mon jugement, ma beauté.
Ma mémoire.
Oui, mais quand vous demandez à quelqu'un de vous aimer, vous ne lui demandez pas de vous aimer pour ce que vous êtes, vous lui demandez de vous aimer inconditionnellement. Quand bien même vous perdriez votre beauté ou votre jeunesse, vous voudriez qu'on continue à vous aimer. Mais en même temps, vous êtes ces qualités, c'est bien pour ça qu'on vous aime, ou qu'on ne vous aime pas d'ailleurs. Donc Pascal, je pense à cette originalité fondamentale, il y a peu d'exemples dans l'histoire de la philosophie, où il conserve les grandes questions de l'histoire de la philosophie, mais il les pose ailleurs.
Pas et puis surtout, il est en train de les démonter, si je puis dire.
Il est en train de les démonter parce que quand vous vous posez la question qui suit...
Poser la question du moi pour dire qu'en fait, ça n'existe pas.
Alors, il existe, mais poser la question du moi à partir de l'amour, bah oui, c'est le meilleur lieu pour poser la question parce que dans l'amour, vous ne voulez pas qu'on vous aime en général, vous voulez qu'on vous aime... Vous, il le dit, moi en particulier. Donc en fait, c'est le bon lieu pour poser la question de la philosophie « Connais-toi toi-même
». À vous, Hélène.
Oui,
alors peut-être vous voulez répondre à Laurence Vuller, mais aussi sur cette question quand même de l'écart entre le moi actuel et le moi de Pascal au XVIIe siècle.
Alors moi, j'aime ce fragment parce que je l'ai fait lire à une amie 48 heures avant son mariage. Résultat, elle a eu une migraine pendant 2 jours et elle m'a dit « plus jamais ». Et je pensais vraiment rendre
service. Elle s'est mariée quand même.
Et elle s'est mariée quand même, j'étais témoin.
Mais elle ne connaissait pas les raisons de son amour.
Non, voilà, peut-être pas. Mais je pense que c'est un fragment, je ne sais pas si je tirerais Pascal là dans une portée morale. D'abord, c'est pratiquement un apax hein, dans les pensées. C'est une des seules occurrences du mot « moi ». Le « moi » n'est pas vraiment une question pascalienne. En revanche, lorsque Pascal l'aborde, je pense qu'il le fait effectivement de manière très moderne, dans une visée, je dirais, rassurante. Et de quoi cherche-t-il à nous rassurer ? Du fait que nous sommes une superposition de couches différentes. La conclusion me paraît très intéressante, qu'on ne se moque donc plus de ceux qui se font honorer pour des charges ou des offices, car on n'aime personne que pour des qualités empruntées. Donc en fait, Pascal formule ici, très simplement, que chacun d'entre nous est un mystère, à la fois semblable aux autres et différent, que ce qui nous différencie des autres est extrêmement impalpable, et que donc, une sorte d'inquiétude existentielle qui viendrait habiter tous nos contemporains trouve un écho dans le texte de Pascal. Donc je dirais qu'il l'aborde, à mon avis, de manière plus ontologique que morale, et plus contemporaine que ne le faisaient ses propres contemporains.
Que de l'époque de la subjectivité moderne, en fait, parce que c'est quand même la naissance de la subjectivité moderne, le XVIIe siècle, il y a quand même Descartes.
Je vois que vous vous tournez...
Oui,
j'ai
mais surtout
vous dire
que vous agitez à côté de moi, Laurence de Miller, donc vous êtes complètement d'accord sur tout.
Oui, il y a Descartes, mais d'une certaine façon, Pascal vient ajouter du mystère à la transparence cartésienne, il vient déstabiliser les certitudes cartésiennes, même si je pense qu'il faut lire Pascal pour lui-même et pas à partir de Descartes.
Peut-être, est-ce que vous pouvez nous dire, Laurence de Villers, avant tout, que dit Descartes, en fait, du moi ? Est-ce que c'est un terme qu'il pose ? Est-ce qu'il l'emploie ? Et qu'est-ce qu'il en dit ? Alors, on en a parlé hier avec Pierre Guénantia, on a compris l'opposition Descartes-Pascal sur la connaissance, mais sur le moi, ça permet peut-être de comprendre l'originalité de la manière de poser de Pascal cette question du moi.
Alors, Descartes utilise, mais c'est très rare, l'expression « le moi ». En fait, cette substantivation du mot « moi » est propre au XVIIe siècle. On ne le faisait pas auparavant. Il y avait « moi, je », mais il n'y avait pas « le moi ». Que dit Descartes ? Deux choses qui constituent la grande tension de sa philosophie. La première chose, c'est que je suis uniquement un être qui se caractérise par le fait de penser. Pourquoi ? Parce que quand je pense, j'ai la certitude d'exister, peu importe ce que je pense, peu importe le contexte, on dirait, de nos jours, que le monde existe ou n'existe pas, je suis en train de penser. Et ça me donne une certitude palpable de moi, du « je », de moi. Mais Descartes ajoute, le « moi humain », c'est l'union de cet esprit qui pense et d'un corps qui sent, et d'un corps qui occupe de l'espace. Donc, c'est la grande tension de la philosophie cartésienne. Hein. Je suis à la fois uniquement une chose qui pense, uniquement dans le sens où ça suffit à me connaître, mais je ne me connais pas totalement si je n'ajoute pas à moi qui suis une chose qui pense le fait que je suis intimement liée à mon corps. Donc le moi humain pour Descartes et cette union métaphysiquement presque impossible à penser parce que tout sépare le corps qui occupe de l'espace, c'est tout, une chose étendue, et l'âme, l'esprit, qui ne fait que penser. Mais la philosophie cartésienne, contrairement à ce qu'on dit, c'est pas du tout un dualisme, c'est penser les deux ensemble.
L'union.
L'union de l'âme et du corps. Pascal, moi j'essaie vraiment de ne pas lire Pascal à partir de Descartes, parce que vous voyez qu'il pose la question de manière totalement subversive et originale. Il pose la question du moi, qui suis-je, de la connaissance de soi-même, à partir de la question de l'amour. Et on comprend pourquoi on l'a dit, parce que dans l'amour, il en va bien de moi et pas de quelqu'un d'autre. Ensuite, il opère une délocalisation de la question philosophique. C'est pas tant qui suis-je que où suis-je. Et puis j'ajoute une autre originalité qui me frappe toujours quand je relis Pascal, c'est qu'il pose les questions de la philosophie en termes de pouvoir ou de politique, voire en termes de société. Pourquoi ? Regardez la fin. Mm-hmm. On pourrait croire qu'il va donner une conclusion plutôt philosophique, je ne suis jamais qui je crois, ou je ne suis jamais là où je crois être, et tout ce que je suis est un mystère, ce que dirait jamais Descartes, puisque ce que je suis, la connaissance que j'en ai, c'est le fondement de toutes les autres connaissances. Ben non. Pascal conclut sur une question sociale et politique. En fait, les personnes qui se définissent par leur titre, je suis productrice d'une émission sur France Culture, je suis... Il ne faut pas se moquer d'elles, même si on a envie, parce qu'on a envie de dire, enfin quand même, vous n'êtes pas que ces apparences de vous-même, vos titres, votre titulature, votre carrière. Ben Pascal dit, ben si. Si, parce qu'en réalité, il n'y a aucune bonne manière de se définir, parce que nous sommes... insaisissable. Et j'ajoute, et peut-être là je me sépare un peu d'Hélène Michon, moi je pense que Pascal, je comprends son ami, hein, lire Pascal, La veille d'un mariage, on n'aime jamais personne, c'est quand même pas la déclaration d'amour la plus intense qui soit, hein. On n'aime jamais personne.
Ça dépend si elle l'a lu. Qualités empruntées. Mais je dirais que, pour rebondir sur ce que dit Laurence, il y a bien une dimension cartésienne dans l'œuvre de Pascal, puisque dans le long fragment sur les deux infinis, Pascal évoque la question que nous sommes corps et âme et que c'est l'union des dieux qui est impensable, l'union des deux qui est impensable.
L'union des deux, oui, pas des dieux.
Non, l'union des deux qui est impensable.
C'est dit,
mais
Dieu
en revanche,
aussi.
Je pense que la manière que Pascal a de philosopher n'est pas celle-là. Je pense qu'il se dit que ça n'intéresse pas tout un chacun de se demander si je suis corps et âme. Ce qui m'intéresse, effectivement, comme dit Laurence, c'est de savoir où se situe mon moi et surtout, est-ce qu'il est capable d'entrer en relation. Et ce fragment 567 est une bonne nouvelle, puisque même si j'ai du mal à m'appréhender, je peux entrer en relation. Et je dirais même, non seulement, bien que je sois impensable, je peux entrer en relation, mais c'est probablement parce que je peux entrer en relation que je vais arriver à me connaître moi-même. Alors, cela dit, je pense que la solution, comme à peu près tout chez Pascal...
Il n'y en a pas.
C'est pas ça. C'est que le domaine des sciences humaines, ce sont un peu des bouts de queue sans chien, hein, et que la réponse, effectivement, est en Dieu. Le point de départ est le point d'arrivée. Donc, essayer de se connaître soi-même sans les deux paramètres de début et de fin, ça devient incompréhensible. Ça ne veut pas dire que radicalement, je suis incompréhensible, mais ça veut dire que sans me référer à mon créateur, eh bien, effectivement, je demeure incompréhensible.
J'ai une question juste, Laurence de Villers, avant de vous donner la parole. À quoi bon poser cette question du moi, si c'est pour finalement dire que ce n'est pas une question d'essence, mais de relation, si c'est pour se demander s'il est là, si c'est pour se dire qu'il est complètement dissous dans des qualités. D'ailleurs, certains commentateurs, certains grands lecteurs de Pascal disent qu'il est l'inventeur du moi. Alors, si c'est un apax, si vraiment le moi n'est pas une substance, à quoi bon poser cette question,
parce
Hélène
que
Michon.
Je pense que ça fait partie des questions où Pascal opère un point de bascule. Mm-hmm. Il arrive de manière très moderne à formuler un concept qui est bien plus ancien que lui, qui est celui de personne, qu'il utilisera peu, et dans lequel la notion de personne dit bien à la fois un substrat permanent et un être qui se déploie dans les relations. Alors contrairement
à Dieu...
Parce que
là, il n'y a plus de substrat.
Si, parce que finalement,
On bah, aime y a donc... des qualités posées sur un substrat bah, auquel on n'a pas accès.
Mais on ne peut pas dire à quelqu'un « j'aime ta substance ». C'est ça qu'il veut dire. Enfin,
et c'est ça qui avait donné ma tête à mon ami. C'est que vous ne dites jamais que vous êtes tombée amoureuse de la nature humaine. Vous êtes tombée amoureuse de Jean-Philippe ou de Jean-Marc. Hein. Mais qu'est-ce que Jean-Philippe ou Jean-Marc, si ce n'est hein, cette conjonction de qualités à la fois périssables, oui. quelquefois qui sont empruntées, c'est-à-dire dont on a l'impression que ce n'est pas vraiment nous, mais à force d'accumuler en quelque sorte ces différentes couches, on arrive à quelque chose de rigoureusement original.
Laurence de Villers.
Rigoureusement original parce que Descartes... pardon, allez, voilà.
Eh ben voilà.
Eh ben voilà. Pascal ne veut pas faire la lumière. Parce que c'est pas possible de faire la lumière.
Mais d'où ma question, c'est-à-dire à quoi bon poser cette question du moi si en fait il ne veut pas faire la lumière? Est-ce que c'est pour nous dire, nous lecteurs, même aujourd'hui en 2026, regardez la question du moi, et c'est en ça qu'elle est contemporaine, vous n'allez pas la résoudre. Je ne vais pas vous dire
qui
vous êtes.
C'est pour ça que je dis que c'est rassurant. C'est-à-dire que Blaise Pascal...
C'est pour ça que je dis que c'est pas rassurant.
Allez, débattez sur Pascal. Bah, en fait, c'est rassurant, Hélène Michon, pourquoi
c'est
pas rassurant?
Mais c'est rassurant de se dire, tiens, Pascal lui-même se demande... Où est son moi? Et donc, finalement, ça veut dire que personne n'a résolu cette question.
Mais si Pascal n'a pas réussi, personne pour vous, c'est ça en gros?
Bah, d'une certaine manière, les auteurs sont des références pour nous. Je pense qu'il y a l'idée qu'à ce moment-là, je partage en tout cas une même inquiétude existentielle. Et cette complicité intellectuelle me paraît effectivement rassurante.
Oui, c'est le principe de quand on lit un roman ou un texte, c'est qu'on a une question qu'on se pose qui est enfin formulée.
Vous savez ce que dit Pascal à propos de ça? Il dit finalement, qu'est-ce que c'est qu'un texte ou une expression qui est naturelle? C'est quand l'auteur dit... ce que je pense au plus profond de moi. Alors vous allez me dire, c'est très narcissique, peut-être, mais le naturel, ça n'est jamais qu'une expression singulière de ce que tout le monde pense. Et je trouve que là, c'est le génie de Pascal.
Laurence Vélard, vous, ça ne vous rassure pas?
Alors, génie de Pascal, oui, mais je ne pense pas que Pascal écrive pour nous rassurer. Je crois que c'est tout le contraire. D'ailleurs, Hélène a utilisé le mot « l'inquiétude ». Pascal veut nous inquiéter. Pourquoi? Parce que nous passons notre vie à ne pas nous inquiéter. C'est-à-dire qu'une question aussi...
À ne pas vouloir nous inquiéter.
Et à ne pas vouloir nous inquiéter, ce qui fait que nous sommes responsables et coupables. Ouais. C'est une question aussi importante que l'amour. On ne veut pas s'inquiéter alors qu'elle est inquiétante parce qu'on est incapable de donner des raisons pourquoi on aime. D'une certaine façon, tant mieux, parce que quand on commence à donner des raisons pourquoi on aime, c'est le début de la fin. C'est généralement quand on n'aime plus.
Ou c'est le début avec Tinder.
Mais oui, parce que les questions, l'ordre des raisons n'est pas l'ordre de l'amour. Donc, d'une certaine façon, tant mieux, mais d'une certaine façon, c'est inquiétant parce qu'une question aussi essentielle, il y a deux questions essentielles. Vouloir être aimé, qui en fait se range derrière une question plus essentielle encore, vouloir être heureux. Et donc, Pascal veut nous inquiéter parce qu'il nous dit aux grandes questions de notre vie et la plus grande qui est celle de « je veux être heureux ». Nous pensons que nous avons les bonnes réponses, mais ce sont toutes des mauvaises réponses. Dans l'amour, prenons l'amour, dit-il. Bah, en réalité, on ne sait pas dire pourquoi on aime et on ne sait pas répondre à la question « qui on aime ?». À la question « je t'aime », on ne sait pas qui est cette personne à qui on dit « je t'aime ». Et puis, il ajoute, encore la conclusion politique, le monde politique et le monde social, c'est une idée ancienne mais qui reprend avec force, est un théâtre. C'est un théâtre de vanité. Je crois être mes titres. Je crois être ce que les autres pensent de moi. Je crois moi-même être ce que je pense être alors que je ne le suis pas. Et donc, contrairement à ce que dit Hélène, je pense que c'est pas du tout rassurant. C'est fait pour nous inquiéter parce que Pascal veut nous dire... Vous croyez que vous savez. Donc, vous croyez que vous pouvez, puisque vous savez, vous pouvez mener la vie que vous voulez. En réalité, non, vous vivez à côté de vous-même, à côté de l'amour, à côté du bonheur et à côté de votre vie même. Et là où je crois qu'il y a une nuance, mais qui est délicate, c'est que je suis d'accord avec Hélène pour dire que, vous savez, en cours de terminale, quand on a la chance d'avoir un cours sur Pascal, ce qu'on n'a pas en philosophie, on nous dit, mais Pascal, il fait parler les libertins d'autres personnes que lui. Moi, je crois que Pascal est plus souvent dans ses autres voix qu'on l'imagine. Mais n'empêche, le point à partir duquel Pascal nous parle n'est pas le nôtre. C'est ce qui fait que le jeu de Pascal est différent et ça pose une vraie question sur...
Il est à la fois comme nous, puisqu'il arrive à décrire des états que nous connaissons. C'est-à-dire
oui,
se poser la question de l'amour.
Géraldine.
Mais il est au-delà de nous. C'est-à-dire
il est au-delà de nous. Il est celui qui peut dire, s'il se vante, je l'abaisse. S'il s'abaisse, je le vante. Et donc, il est celui qui...
Je le vante de vanter, hein, de crâner, pas de vanter et vanter.
Non,
hein.
S'il crâne, je le rabaisse. S'il se rabaisse, je le fais crâner. Cette position-là, c'est pas la nôtre, il est déjà ailleurs. Ce qui permet justement de nous tourmenter, de nous dire « tu crois te connaître, tu ne te connais pas. Tu crois avoir les réponses, tu ne les as pas. » Et non seulement tu ne les as pas, mais tu ne veux pas entendre ce que je vais te dire. Moi, je crois que Pascal fait deux choses à la philosophie. D'abord, il rit. Il y a quand même un rire. La fin, qu'on ne se moque donc pas de ceux, en réalité, ça veut dire... Oui.
Mais allez-y.
Ils sont ridicules, mais on n'a pas...
Mais comme il dit que se moquer de la philosophie, c'est faire de la philosophie.
Mais en fait, on peut se moquer, mais on n'a pas d'autre choix qu'être ridicule. Parce que dans la vie sociale, et même dans l'amitié, ce qui n'est pas rassurant quand même, Hélène, il dit, si les amis entendaient ce qu'on pense
d'eux... Parce que vous êtes amis que vous dites ça.
Oui. amis entendaient ce qu'on pense d'eux quand on n'y est pas, il y aurait... Trois ou quatre amis sur Terre. Oui. Donc, le jeu social est un jeu de dupes, mais on n'en a pas d'autres.
Alors, je maintiens ma position, mais je pense que nous ne sommes pas en désaccord.
Mais oui, je pense que les deux peuvent aller ensemble.
C'est une,
on peut
une
être
chose
rassuré
est de dire,
d'être inquiet.
Voilà. Non, une chose, c'est de dire, nous partageons la même question, et donc ça crée une communauté intellectuelle. Pascal récuse, je trouve, de ce point de vue-là, les ignorants et les savants, ou les sachants, terme horrible. Et donc, d'une certaine manière, il casse le moule universitaire des maîtres et des disciples. Donc, une chose, c'est de créer cette communauté intellectuelle, et une autre chose, c'est de dire, nous allons différer quand on réponse. Mais c'est pour créer le dialogue, il faut que tout le monde partage la même question. C'est ce que Pascal veut montrer. Et le deuxième point sur lequel je ne suis pas non plus d'accord avec Laurence, je ne crois pas qu'il y ait finalement une moquerie. C'est simplement, Pascal souligne le fait que dans la société des hommes, c'est un système de duperie, mais on ne peut pas faire mieux. Donc, la société de la transparence, c'est à la limite la Jérusalem céleste. Dans la cité des hommes, et donc, personne ne peut se moquer de personne. Vous êtes productrice à France Culture, l'autre est enseignant, l'autre...
Non mais disons qu'il recommande une forme, par moquerie, vous entendiez Laurence Villers, une forme de distance, c'est-à-dire le savoir...
De penser de derrière la tête, il va
d'autodérision.
Oui.
On n'a pas d'autre choix que le ridicule. Nous sommes dans un monde ridicule.
Non mais c'est le terme de ridicule que je récuserais, parce que je pense que la pensée de derrière, justement, est toujours exempte de mépris. Alors que
le ridicule... il le dit, le ridicule, c'est de sortir de son ordre en permanence. Et nous ne cessons de le faire. C'est à la fois ridicule et tyrannique. Pourquoi ? Parce que nous voudrions que les autres nous aiment pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire, je suis tout puissant et je voudrais qu'on m'aime. Je suis beau, je voudrais qu'on m'aime. Et ça, Pascal le dit texto.
Tout à fait.
D'ailleurs,
c'est
ridicule, c'est tyrannique. Et tyrannique c'est parce tyrannique. Que le moi est tyrannique.
D'ailleurs, on va entendre un autre texte. Le moi est tyrannique. Pascal nous dit, le moi est haïssable.
Le moi est haïssable. Vous, Miton, le couvrez. Vous ne l'ôtez point pour cela. Vous êtes donc toujours haïssable. Point car en agissant comme nous faisons obligeamment pour tout le monde, on n'a plus sujet de nous haïr. Cela est vrai si on ne haïssait dans le moi que le déplaisir qui nous en revient. Mais si je le hais parce qu'il est injuste qu'il se fasse centre de tout, je le haïrai toujours. En un mot, le moi a deux qualités. Il est injuste en soi en ce qu'il se fait centre de tout. Il est incommode aux autres en ce qu'il veut les asservir, car chaque moi est l'ennemi et voudrait être le tyran de tous les autres. Vous en ôtez l'incommodité, mais non pas l'injustice. Et ainsi, vous ne le rendez pas aimable à ceux qui en haïssent l'injustice. Vous ne le rendez aimable qu'aux injustes qui n'y trouvent plus leur ennemi. Et ainsi, vous demeurez injuste et ne pouvez plaire qu'aux injustes.
Fragment 455 de l'édition Cellier, pour ceux qui ont une édition La Fuma, comme moi. C'est fragment 597, c'est un texte lu par Colin Gruel. Nous parlons évidemment des pensées de Pascal et du moi aujourd'hui, en compagnie d'Hélène Michon et de Laurence de Villers. Le moi est haïssable. on connaît en fait cette phrase. Moi, je me disais, mais oui, je comprends complètement, je m'aime pas, mais oui, j'ai un mauvais fond, ça me va pas, une manière en fait de me flatter. Et finalement, le texte n'est pas aussi simple que ça, mais il est dans la continuité de ce que vous disiez. C'est le moi, il est toujours en relation. Il est toujours en relation par rapport aux autres qu'il veut asservir, nous dit Pascal, et par rapport aux autres, puisqu'il veut être le centre de tout. Est-ce qu'il faut le comprendre comme une condamnation morale du moi, non seulement métaphysique, mais aussi voilà, morale, un peu comme les moralistes de son époque, Laurence de Villers.
Ah, oui, il y a une condamnation du moi. Le moi est haïssable, pas en lui-même, d'une certaine façon, puisqu'il est quand même le lieu qu'on va... Enfin, le lieu qu'on va essayer de venir tourmenter pour que le moi se pose des bonnes questions. Mais il est haïssable dans ses exigences. Et vous voyez, c'est frappant comme Pascal aborde les questions de la philosophie avec un autre vocabulaire. Là, c'est le vocabulaire, bien sûr, de la haine et le vocabulaire moral, mais regardez, il utilise un vocabulaire de pouvoir. Mm-hmm. Tout est rapport de force. Le moi est un champ de bataille. La société est un champ de bataille. Tout est rapport de force et donc, aussi, tout est une question de trouver la justesse et la justice. Il s'agit d'être juste et nous ne le sommes pas. Pourquoi ? Mais parce que nous voulons être le centre de tout, mais les autres veulent également être le centre de tout.
C'est là où en fait c'est assez déconcertant, c'est que quand on lit les fragments de Pascal sur le moi, et on va en écouter d'autres, on s'attend à des fragments plus intimes. D'égo philosophie comme on en connaît aujourd'hui et finalement c'est toujours en fait un moi, c'est plutôt de la philosophie, est-ce qu'on pourrait dire morale, politique, éthique peut-être aussi d'une certaine manière.
Moi je suis de plus en plus frappée de voir le nombre de fragments essentiels des pensées qui sont décrits, le fragment sur l'imagination est décrit aussi en rapport de force avec des exemples sociaux, les soldats, le roi. Je pense qu'il y a une préoccupation sociale et politique chez Pascal qu'on n'a peut-être pas suffisamment soulignée, mais elle nous saute aux yeux.
En fait, Pascal tout y fait référence, tout fait signe vers
ça. Tout est rapport de force, d'une certaine façon.
C'est sûr que en plus, Pascal craint, comme le plus grand des maux, la guerre civile. Donc c'est sûr que pour lui, les relations pacifiées sont, même dans une société, dans un micro-groupe, c'est le plus important. Mais je dirais que si on veut comparer Pascal aux moralistes, ce qui a été fait, puisqu'il y a des anthologies dans lesquelles on place Pascal avec les moralistes, il est quand même finalement assez différent d'un La Rochefoucauld qui a beaucoup parlé, lui aussi, du moi, justement parce que c'est plus un problème, alors pour reprendre le terme de Laurence de tout à l'heure, de localisation. Finalement, le moi ne trouve pas sa place. Et je dirais que la condamnation morale, pour moi, n'est pas première. Elle vient d'une sorte de perte de lieu, je dirais presque métaphysique. Le moi ne sait pas où se placer et donc, avec angoisse, il prend la place qui est peut-être la plus simple, même d'un point de vue géométrique, qui est le centre. Mais je dirais que le malaise vient surtout d'un lieu qu'il ne trouve pas.
Ça, c'est vraiment intéressant parce que ça veut dire que la question, c'est pas où est le moi d'un point de vue métaphysique, c'est où se placer, où je peux me placer dans cette société.
Exactement. Et Pascal dit ailleurs que les hommes avant Jésus-Christ ne savaient s'ils étaient grands ou petits. Et je dirais que c'est la même chose, droite, gauche, haut, bas, tout ça ce sont des catégories par rapport auxquelles on aimerait pouvoir se placer. Mais pour Pascal, en dehors de cette lumière transcendante, finalement, il y a une espèce de vide spatial dans lequel le moi ne sait pas trouver son endroit. Et lorsqu'il s'adresse à son interlocuteur en disant « Vous le couvrez, mais vous ne l'ôtez point hein, », ce moi haïssable, c'est bien l'idée que...
Qui est Miton, d'ailleurs, peut-être
Alors, c'est un contemporain et ami de Pascal.
Damien Miton, c'est ça?
Oui, exactement. Hein, et qui est donc que Pascal... convoque d'une certaine manière pour donner un peu plus de portée pédagogique à son dialogue.
C'est l'image même de l'honnête homme.
C'est l'honnête homme, c'est le monde.
Celui qui sait se débrouiller en société, qui sait louvoyer.
Et c'est celui qui accumule des couches. Alors voyez, c'est intéressant parce que tout à l'heure, les couches étaient d'une certaine manière acceptées. Hein, on n'aime jamais soi-même que... on n'aime jamais autrui que pour des qualités empruntées. Et là, finalement, les couches sont critiquées. Hein, vous le couvrez, vous ne l'ôtez point. Mais l'idée, c'est parce que il faut atteindre le fond du cœur et tout ce qui est du domaine de la mondanité, de la sociabilité, de la politesse n'atteint pas le fond. Donc là, c'est une condamnation des apparences, alors que tout à l'heure, elles étaient
Alors, voilà, alors là, je ne comprends pas, parce que si, en fait, le moi est un moi en relation, si on condamne ces relations pour leur côté illusoire ou dupe, bah... Non,
alors, on ne condamne pas des relations, on condamne une duperie, hein, c'est-à-dire une espèce de couverture.
Et de tyrannie même, il faut aller plus loin. Le moi veut vraiment être le centre de tout et qu'on l'aime.
Injuste en soi, en ce qu'il se fait centre de tout, incommode aux autres en ce qu'il veut les asservir. Bah dis donc, tyran, il dit après.
Tyran, bah oui, c'est cette immixtion du vocabulaire politique guerrier même, de rapport de
force. Mais c'est parce qu'en fait, la tyrannie vient du fait qu'il n'y a qu'un seul centre. Et si tout le monde veut être à la même place, ça n'est pas possible.
Et la tyrannie vient du fait qu'il n'y a rien en moi qui justifie que je me fasse le centre. Moi, il y a un fragment que j'aime beaucoup. Que fera le moi ? Il se veut grand, il se voit petit. Il se veut plein de perfections, il est plein d'imperfections. Il veut être le centre de tout. Et rien ne justifie que... La tyrannie, elle naît du fait que vous demandez quelque chose qui est sans justification, sans raison. Mmh. Et donc, oui, le... Et alors...
Alors là, c'est très contemporain. On est d'accord, parce que cette idée, quand même, l'individualisme, la concurrence de soi contre les autres, là, Pascal est très contemporain.
Il est très contemporain. Et je vais quand même, ce pauvre moi, c'est quand même à la fois le mal et le remède d'une certaine façon. Le problème et la solution. Pourquoi ? Parce que ce moi est empli d'un amour qui le dépasse totalement. Il est empli d'un amour plus grand que lui. Il a besoin d'aimer. Le moi est animé d'un désir beaucoup plus grand que d'avoir telle carrière, d'être aimé par un tel. Donc, ce moi est en fait la guerre civile dont parlait Hélène Michon, elle est même à l'intérieur du moi. C'est-à-dire que le moi est dupe jusqu'à un certain point. Il a en lui un désir de grand, de beau, de vrai, mais il n'y parvient pas. Il a un désir qui sans cesse échoue à se satisfaire. Donc,
je dirais que là, il me semble que du coup tu utilises plutôt le cœur. Je dirais qu'il y a un anti-moi qui est le cœur.
Mais maintenant, parce que le cœur est plein d'ordures aussi chez Pascal.
Alors, c'est vrai. Mais c'est quand même lui qui éprouve cette espèce de désir.
On en a parlé hier avec Pierre Guénon. On a fini sur cette idée, d'ailleurs.
Moi, je crois pas
le moi n'est jamais vraiment positif.
Le moi est quand même positif, parce que si on l'inquiète, il pourra devenir un jeu plus lucide, il sortira de son ignorance tranquille et il se posera enfin les vraies questions. Oui. Et surtout, on va le forcer à se penser lui-même et à comprendre qu'il est animé de... C'est très beau d'ailleurs, c'est très émouvant et je crois que ça peut nous toucher de nos jours. Et ça touche évidemment les gens qui sont athées. On est animé d'un désir qui ne trouve pas son objet, qui ne trouve pas satisfaction, parce qu'en fait, on a une capacité à aimer plus grande que les objets qu'on se donne à aimer.
Mais ouais, je dirais que le cœur est le pôle de réceptivité. C'est pour ça qu'il n'est pas tyrannique.
Le pôle de réceptivité dans le moi.
Dans le moi. Le moi, d'une certaine manière, est de l'ordre de là. Il s'impose, il se pose, il s'impose et il possède. Et le cœur est plutôt ce qui, en nous, est en position de réceptacle. C'est ce que dit Pascal, la capacité au sens de la réceptivité.
Mais il y a quelque chose. Le cœur
est plein d'ordures.
Oui, mais c'est quand même plein d'ordures. Vous n'avez pas écouté l'émission d'hier, Laurence Desvillers. Il faut sauver le cœur. C'est quand même une
lame. C'est le cœur qui sans Dieu.
Je pense qu'il y a un problème de méthode avec Pascal, c'est que il dérange tellement qu'on cherche à lui faire dire des choses qu'il n'a pas dites et qu'on essaie de ramener à une sorte d'unité qui n'est pas du tout. Du tout pascalienne. Les trois ordres, par exemple, on en fait une clé pour tout expliquer. Or, il est impossible de tout expliquer, précisément
donc,
parce que...
esprit et charité.
Et charité. Et
cœur.
Ou...
Sagesse.
Ça ne peut pas être une explication pour tout, puisque précisément, il y a des ordres et qui sont incommensurables les uns aux autres. Ils sont hétérogènes.
Mais ensuite, donc, ça donne une structure.
Oui, mais ce n'est pas une clé pour tout. Ensuite, on fait du cœur. Ah, ça, il faut sauver le cœur. Bah non, il y a des fragments qui contredisent magistralement avec un vocabulaire... même très cru et dérangeant, cette idée qu'il y aurait une unité qu'on pourrait absolument sauver. Il n'y a pas d'unité, il y a une inquiétude. Il y a un fragment de Pascal, à mon avis, qui dit cela. On ne peut pas se stabiliser en une solution. Il dit « j'ai l'esprit plein d'inquiétude » et il corrige. Je suis plein d'inquiétudes. En fait, la seule chose qui est qui permette de dire je, c'est que je ne peux pas me stabiliser en une unité qui serait heureuse, transparente et enfin conquise.
En fait, il faut vivre brisé presque, vivre inquiet.
Il faut vivre inquiet.
Hélène, je suis pas d'accord. Deux contraintes, si je puis dire.
Et après, on passera au texte d'après.
Hein. On a la mention du cœur creux, mais on a deux autres mentions concernant le cœur. Hein. Le cœur, il sent des vérités que la raison n'appréhende pas, et le cœur sent Dieu. Donc, je crois qu'il y a quand même quelque chose, une faculté de l'ordre de l'immédiateté hein, et de la réception qui vient, qui est une sorte de socle, malgré tout, positif, qui va permettre à Pascal de venir appuyer ces différents ordres.
De toute façon,
on
n'a
pas de dissolution du sujet chez Pascal.
De toute façon, Pascal ne tranche jamais sur le cœur ou sur le moi. C'est-à-dire que justement, s'il garde des inquiétudes, c'est-à-dire que le cœur est à la fois plein d'ordures et en même temps une voie de connaissance, un réceptacle.
C'est une voie de connaissance.
Pour la lumière
mais,
divine,
mais
quand
tout
même.
Est corrompu. La raison elle-même, il dit la raison corrompue a tout corrompu.
Oui, mais donc le cœur n'est pas la raison.
Le cœur n'est pas la raison. Le cœur creux est plein d'ordures. Donc en fait, je sais qu'on résiste parce que Pascal, c'est vraiment pas confortable. C'est un des auteurs les moins confortables qui soient. Il y a pas grand-chose de stable à conserver. En fait, il part de Montaigne.
En fait, il nous oblige à vivre avec des contradictions et des paradoxes.
De toute façon,
donc,
la
vous ne serez jamais d'accord sur votre lecture.
La contradiction et la vérité. Il faut pouvoir tenir ensemble les contradictions. Je pense qu'il part de Montaigne, qui lui s'accommode joyeusement de l'instabilité, et Pascal en fait un drame parce que nous voulons une stabilité, nous voulons être heureux, nous voulons être aimés
pour nous. Mais pourquoi est-ce que nous voulons la stabilité? Sinon parce que nous sommes faits pour la stabilité.
Nous
et donc cette
pour la
tension, elle est en
pas.
Même temps porteuse de sens. Il n'y a pas une sorte de cynisme à accepter la déconstruction.
On va écouter un autre fragment des pensées de Pascal sur la vie imaginaire, mais avant ça, un extrait du Misanthrope.
Je veux que l'on soit homme, et qu'en toute rencontre le fond de notre cœur, dans nos discours, se montre, que ce soit lui qui parle, et que nos sentiments ne se masquent jamais sous de vains compliments.
Il est bien des endroits où la pleine franchise deviendrait ridicule, et serait peu permise. Et parfois, n'en déplaise à votre austère honneur, il est bon de cacher ce qu'on a dans le cœur. Serait-il à propos et de la bienséance de dire à 1000 gens tout ce que de l'on pense? Et quand on a quelqu'un qu'on hait, ou qui déplaît, lui doit-on déclarer la chose comme elle est?
Oui.
Quoi? Vous iriez dire à la vieille Émilie qu'à son âge, il s'y est mal de faire la jolie et que le blanc qu'elle a scandalise chacun?
Sans doute.
À Dorilas, qu'il est trop importun, et qu'il naît à la cour, oreille, qu'il ne lasse à compter sa bravoure et l'éclat de sa race.
Fort bien!
Vous vous moquez.
Je ne me moque point. Et je vais n'épargner personne sur ce point. Mes yeux sont trop blessés. Et la cour et la ville ne m'offrent rien qu'objets à m'échauffer la bile. J'entre en une humeur noire, en un chagrin profond quand je vois vivre entre eux les hommes comme ils font. Je ne trouve partout que lâche flatterie, qu'injustice, intérêt, trahison, fourberie, je n'y puis plus tenir, j'enrage! Et mon dessein est de rompre en visière à tout le genre humain.
Ce chagrin philosophe est un peu trop sauvage.
Nous ne nous contentons pas de la vie que nous avons en nous et en notre propre être. Nous voulons vivre dans l'idée des autres d'une vie imaginaire et nous nous efforçons pour cela de paraître. Nous travaillons incessamment à embellir et conserver notre être imaginaire et négligeons le véritable. Et si nous avons ou la tranquillité, ou la générosité et la fidélité, nous nous empressons de le faire savoir afin d'attacher ces vertus-là à notre autre être et les détacherions plutôt de nous pour les joindre à l'autre. Nous serions de bon cœur poltrons pour en acquérir la réputation d'être vaillants. Grande marque du néant de notre propre être, de n'être pas satisfait de l'un sans l'autre et d'échanger souvent l'un pour l'autre. Car qui ne mourrait pour conserver son honneur, celui-là serait infâme.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mosna-Savoie.
peut-on dire que qu'Alceste, le misanthrope de Molière, est comme Pascal? Il partage le même diagnostic sur la société de son époque, le XVIIe siècle, à savoir une société des illusions, mais il ne partage pas le même remède. Alceste veut la sincérité, l'honnêteté, être transparent avec son propre moi, alors que Pascal est beaucoup plus lucide d'une certaine manière. Nous vivons dans une société de tromperies, d'illusions, et il faut le savoir et continuer à vivre avec. Et donc le moi serait en ça aussi complètement opaque. Hélène Michon.
Alors bon, Alceste réclame une société d'éclat. L'utilise à plusieurs reprises et de transparence. Et donc on sait bien qu'il va finir en ermite en essayant d'entraîner Célimène sans succès. Pascal effectivement accepte le jeu des apparences, comme on l'a vu dès le premier fragment. En revanche ici, ce qui est condamné, c'est la vie imaginaire, nous voulons vivre dans l'idée des autres. Alors ça, je trouve qu'avec les moyens contemporains, le système des réseaux sociaux, etc., c'est d'une modernité incroyable. Finalement, on ne se contente pas tellement de ce qu'on a entre les mains, de ce qu'on est, mais on est surtout soucieux de la manière dont on est perçu. Et donc pour Pascal, c'est tout l'enjeu finalement de la vie, c'est d'essayer de mettre l'être au-dessus du paraître. Mais le problème, c'est que notre être, grande marque du néant de notre propre être. Donc nous avons besoin d'un regard de quelqu'un qui viendrait en quelque sorte nous stabiliser dans notre être.
Mais ce qui répond au premier fragment qu'on a entendu, c'est-à-dire on aime que quelqu'un pour ses qualités, c'est-à-dire c'est la qualité, c'est la manière dont on est perçu, manière dont on apparaît.
Je ne crois pas que ce soit exactement la même chose, parce qu'ici il est question de l'imagination.
Donc qu'est-ce que ça change, ça?
Alors ça veut dire que dans le premier fragment, on acceptait que tout ce que j'ai fait, tout ce que je dis, etc., fasse partie de ma personnalité. En revanche, ici, ce qui est stigmatisé, c'est que je ne m'intéresse pas tant à ce que je suis qu'à la manière dont vous, Géraldine, qui m'interrogez, me percevez. Et j'accorde plus d'importance à cette vie en vous, par imagination, qu'à ma vie réelle. Et donc, il s'agit pour Pascal, l'enjeu, c'est de dénoncer ces pouvoirs de l'imagination. Mais attention, Pascal dit bien que l'imagination, contrairement à la raison, rend heureuse.
Oui.
Et ça, c'est pas assez souligné.
D'où le fait de vivre avec cette imagination et de vivre aussi avec cette illusion du moi. Mais moi, j'ai une question. Est-ce que le moi existe ? Puisque tout est opaque, parce que là, depuis tout à l'heure, on fait comme s'il y avait une manière d'être en société, c'est-à-dire d'apparaître, et une manière d'être pour soi. Or, j'ai l'impression que pour Pascal, il n'y a pas de moi. En fait, quand je suis seule, je ne suis pas plus moi, puisque je m'imagine autant. Ah bon ?
Mais si, justement, l'expérience cruciale...
Mais pourtant, je n'arrive pas à rester en repos dans une chambre.
Mais on y est. Alors, je souligne quand même la force de la puissance de ce fragment qui consiste à dire à l'encontre de toute la philosophie que nous préférons le paraître à l'être et que nous avons raison, parce que le paraître nous rend plus heureux grâce à l'imagination que l'être. Il y a une horreur de l'être chez l'humain, selon Pascal. Il y a vraiment... En réalité, nous ne sommes pas tant haïssables que nous nous détestons nous-mêmes. Pourquoi ? L'expérience cruciale, c'est celle dont vous parliez. Le moi. C'est un peu, moi, je compare toujours ça avec l'expérience de Schrödinger, cette expérience de physique
du chat
et de savoir le chat, il est mort ou vivant. Eh bien, Pascal fait une expérience physique. Mettons-nous seuls, sans activité, sans occupation, dans une chambre. Ça sera terrifiant. Il montrera de nous un malaise, un mal-être, parce que nous détesterons être seuls avec nous-mêmes. Et le voilà, le moi, il est là. Mais le moi déteste être ce qu'il est. Parce qu'elle le dit, toute la raison fait notre nature, mais nous agissons contre notre nature. Donc il y a, et c'est ça la grande marque du néant de notre être. Mais c'est quand même, c'est très fort. Il dit vide de la nature ailleurs.
Plus que détestable, je pense que le moi est insaisissable. Et c'est cette...
Alors là, pour
il
n'est
pas
coup,
seulement insaisissable.
De toute façon, quand on parle de Pascal, on parle d'introuvable ou d'haïssable quand on parle du moi.
Oui, il n'est pas seulement insaisissable. Le moi ne supporte pas d'être face à lui-même. Donc, il invente le paraître, il invente les jeux de société.
Le divertissement, c'est le fameux divertissement pascalien.
Il invente le Mais pourquoi Et le moi, il existe.
C'est-à-dire qu'en fait, le paradoxe, c'est que nous voulons être nous-mêmes,
mais
nous détestons
être
nous-mêmes.
Bah oui, et ça, c'est le génie de Pascal. Nous voulons non seulement que les autres nous reconnaissent, nous aiment, nous voulons être le centre de tout, mais en réalité, nous détestons être celui que
nous
sommes.
Oui, nous voulons être un moi que l'on a fabriqué et imaginé.
Qui est complètement factice.
Je ne vois pas pas dans quel texte on pourrait se référer à une détestation de soi.
Bah là,
je crois que. Mais non, là.
Néant de
y a...
notre être.
Mais oui, mais c'est pas
nous,
la même
nous
chose.
Nous travaillons sans cesse
c'est,
à embellir.
C'est ce que. Il me semble que là, grande marque du néant de notre propre être, c'est cette idée que je n'arrive pas à me saisir. Et donc, pris dans ce vertige, en quelque sorte, d'un non-être, je m'accroche à ce qui est à ma portée.
C'est plus profond que ça, le fragment.
C'est vrai que
sur...
le terme embellir, quand même, vient dire un truc d'enjolivement.
Et puis, imaginaire. Nous vivons une vie imaginaire. Il y a une oui, inauthenticité. Mais ce n'est pas seulement le fait que je suis insaisissable, c'est que je ne veux pas être celui que je suis. S'il y avait un cogito pascalien, c'est je suis celui que je ne suis pas et je ne veux pas être celui que je suis.
Hélène
le
Michon.
Divertissement, c'est sa fonction.
Oui. Hélène Michon. Je crois sincèrement qu'il y a chez Pascal une impossibilité à se trouver. Et pourquoi est-ce que l'homme ne veut pas rester seul dans sa chambre? Parce qu'à ce moment-là, ce qui le rappelle à lui, c'est l'inquiétude et surtout l'inquiétude de la mort.
Il n'y a pas de
détestation de soi. Hein, c'est une impossibilité de trouver
après,
des réponses.
Attendez. Par contre, moi, mais à ce moment-là, moi, je vous posais la question. Vous avez déjà été toute seule dans une chambre.
Oui.
Le vrai problème, c'est qu'on n'est jamais avec soi-même. C'est-à-dire que ça veut rien dire d'être avec soi. On n'est pas le moi là. C'est là aussi on comprend le néant.
Le moi chez Pascal est habité. Il faut quand même le rappeler, hein, Pascal.
Mais
dit
moi,
que
c'est ça la question. Par quoi?
Il est habité par
ce désir d'infini,
par Dieu qui est vérité, et à force de dialoguer avec la vérité, on finit par se la persuader à soi-même.
Est-ce que c'est une question qu'on peut se poser aujourd'hui, au XXIe siècle,
oui,
sans
parce
croire
que
en Dieu ?
C'est pas forcément Jésus-Christ, mais c'est l'idée que notre intimité, notre intériorité, elle est habitée, et ça n'est que quand on la perçoit comme inhabitée qu'elle est vertigineuse.
Oui, c'est surtout que le moi laissé à lui-même dans une chambre découvre qu'il ne peut pas être heureux. Et ça, c'est une tragédie, parce que la seule chose qu'il veuille, c'est être heureux. Donc, en fait, il y a une détestation de l'être, parce que l'être que je suis ne me rend pas heureux. Il y a des tas de fragments, il y en a un où Pascal le dit, si c'était un tel bonheur d'être simplement en vie, on resterait bien tranquille, on n'irait pas courir la terre et devant des périls. Donc, en fait, pourquoi on n'est pas heureux simplement à être nous-mêmes? Parce que c'est pas seulement l'idée de la mort. La mort est une des caractéristiques qui fait que nous ne sommes pas heureux avec nous-mêmes. Pascal le dit dans le fragment, il le conclut, rien ne peut nous consoler quand
mais
nous y pensons
que,
de près.
Mais parce
et donc,
que c'est
nous ne voulons pas
insignifiant, cette
non,
vie.
Non, c'est parce que rien ne peut nous consoler. C'est quand même une phrase dramatique.
Mais parce
rien
que, mais,
ne peut nous consoler.
Mais qu'est-ce qui est désolant dans notre vie? C'est si cette vie n'a pas de sens.
Non,
c'est la
cette vie
perte
n'a pas de sens.
De sens. Ben voilà, c'est ça qui est désolant.
Oui,
mais elle peut en avoir.
Elle peut en avoir, mais Pascal nous demande d'abord d'affronter cette vérité insupportable que rien ne peut nous consoler. La vie, non seulement n'a pas de sens, mais elle ne nous rend pas heureux. Et ça, c'est une expérience du moi. Il est là, le moi.
Alors, on va écouter un dernier texte qui peut-être nous donnera cette idée d'un sens.
Que fera donc l'homme en cet état? Doutera-t-il de tout? Doutera-t-il s'il veille, si on le pince, si on le brûle? Doutera-t-il s'il doute? Doutera-t-il s'il hait? On en peut venir là, et je mets en fait qu'il n'y a jamais eu de pyrrhonien effectif parfait. La nature soutient la raison impuissante et l'empêche d'extravaguer jusqu'à ce point. Dira-t-il donc au contraire qu'il possède certainement la vérité, lui qui, si peu qu'on le pousse, ne peut en montrer aucun titre et est forcé de lâcher prise? Quelle chimère est-ce donc que l'homme? Quelle nouveauté? Quel monstre? Quel chaos? Quel sujet de contradiction? Quel prodige? Juge de toute chose, imbécile ver de terre, dépositaire du vrai, cloaque d'incertitude et d'erreur, gloire et rebut de l'univers. Qui démêlera cet embrouillement? La nature confond les pyrrhoniens et la raison confond les dogmatiques. Que deviendrez-vous donc, ô homme qui cherchez quelle est votre véritable condition par votre raison naturelle? Vous ne pouvez fuir une de ces sectes ni subsister dans aucune. Connaissez donc, superbe, quel paradoxe vous êtes vous-même. Humiliez-vous, raison impuissante. Taisez-vous, nature imbécile. Apprenez que l'homme passe infiniment l'homme et entendez de votre maître votre condition véritable que vous ignorez. Écoutez Dieu. Car enfin, si l'homme n'avait jamais été corrompu, il jouirait dans son innocence et de la vérité et de la félicité avec assurance. Et si l'homme n'avait jamais été que corrompu, il n'aurait aucune idée ni de la vérité ni de la béatitude. Mais malheureux que nous sommes, et plus que s'il n'y avait point de grandeur dans notre condition, nous sentons une image de la vérité et ne possédons que le mensonge, incapable d'ignorer absolument et de savoir certainement, tant il est manifeste que nous avons été dans un degré de perfection dont nous sommes malheureusement déchus.
Il y a une école qui veut
ça,
parler.
C'est le débat qui continue en studio. On vous entend, Laurence de Villers, sur voilà, est-ce que le moi se déteste ou pas? Est-ce qu'il peut se consoler ou pas? Ce fragment 164 de l'édition Cellier peut peut-être nous donner une réponse. Vous allez répondre très rapidement. Alors voilà, la consolation ne vient pas de la raison, hein, pyrrhonien, dogmatique, non, mais de Dieu. Hélène Michon, est-ce que c'est Dieu, en fait, qui nous permet de donner un sens à ce moi qui, voilà, a fait l'expérience du gouffre?
Alors, en fait, il me semble que l'homme constate, c'est ce que dit Pascal dans ce fragment, qu'il a une tension interne entre deux états, hein, un état dans lequel il était heureux, dont il garde l'idée de ce bonheur, et un état qui est celui d'aujourd'hui. Et cette espèce de tension, de dichotomie, trouve pour Pascal sa réponse dans la fameuse question du péché originel. Mais je voulais juste insister sur quelque chose, le fait que l'homme était bon et qu'il est devenu méchant et que maintenant il est à la fois méchant et bon. Mais je voudrais juste conclure sur une chose, c'est que Pascal va...
Vous avez un tout petit peu de temps quand même,
bon,
allez-y.
Il va très loin en expliquant que ce double état de l'homme est une sorte d'image de la double nature de Jésus-Christ, chose qui est un rapprochement qui, je crois, avait été peu fait dans l'histoire de la théologie. Et donc, cette double nature de l'homme est une clé de compréhension de soi. Et à partir du moment où l'homme va se comprendre, il va parvenir à se situer et donc il va parvenir à s'apaiser et trouver sa place dans l'univers. Donc Dieu a une, par le biais de la révélation et surtout par le biais du péché d'origine, du péché des origines, effectivement, Pascal, là, trouve une clé. D'ailleurs, il le dit lui-même.
Laurence de Villers.
Alors,
1 minute 30 pour
l'homme conclure. Reste un monstre incompréhensible à lui-même. C'est une expression de Pascal, un monstre incompréhensible. Et là, évidemment, il est un sujet de contradiction. Et en réalité, l'une des vocations des pensées est de nous empêcher toute voie d'issue, toute stabilisation, toute ignorance tranquille ou toute illusion. Nous devons accepter le fait que nous sommes contradictoires. Nous sommes à la fois la gloire et le rebut de l'univers. Et là où je suis entièrement d'accord avec
elle. La misère et grandeur, hein, voilà. En fait.
Nous sommes les deux en même temps. Il n'y a pas un avant et un après. La théologie l'explique avec un avant, le péché originel, et puis avec la chute. Mais la philosophie l'explique par la coïncidence en l'homme de grandeur et de misère, de rebut et de gloire.
Oui, mais c'est un constat, il n'y a pas d'explication philosophique.
Laurence de Villers, continue.
Donc la philosophie l'explique avec le fait que l'homme est un sujet de contradiction, et on le voit, Pascal mêle dans ce fragment des termes philosophiques, sujet de contradiction, technique, et puis des termes que vous diriez moralistes, Géraldine, de jugement de valeur. Mais nous sommes arrivés au moins à cela, que nous avons été déstabilisés dans nos fausses tranquillités, et que Pascal nous met au jour le fait que nous qui voulons le bonheur, nous ne l'avons pas, et que nous qui avons en nous, évidemment que le moi est habité, il est même animé d'un désir infini, nous nous trompons sur les objets de ce désir. Donc maintenant que nous n'avons plus grand-chose pour nous stabiliser, en fait, Pascal nous a tout ôté. Maintenant qu'il nous a tout ôté comme refuge, et il nous a même dit qu'il n'y avait pas de consolation possible, il dit une seule chose, écoutez, écoutez Dieu. Voilà, maintenant on est prêt à écouter.
On pourrait croire que l'été revient, tellement il fait beau sur la ville. Et s'il y a une chose qui me fait envie, c'est bien l'envie de ne rien faire. Aujourd'hui, vive-moi, je suis bien dans ma peau. Aujourd'hui, vive-moi, c'est ma fête. À la radio, y a quelqu'un qui parle, j'irai sûrement pas contredire. aujourd'hui, vive-moi, c'est ma fête.
Vive-moi de Jo Dassin, clairement une chanson que Pascal n'aurait pas pu chanter. Merci à vous deux, Hélène Michon et Laurence de Villers. Hélène Michon, de vous, on peut lire Se convertir à Dieu avec Pascal, c'est aux éditions du Carmel. De vous, Laurence de Villers, on peut lire Vengeance, le droit de ne pas pardonner, ça vient de paraître aux éditions Stock. Et on vous écoute tous les jeudis sur France Culture dans le fil philo et sur l'application Radio France. Mais il est 10h54, passé de 30 secondes, et c'est l'heure de retrouver le pourquoi du comment de Frédéric Worms.
Comment se construit la bioéthique ? Au moment où, en France, revient le débat sur la bioéthique qui va conduire à une nouvelle loi prévue tous les 7 ans, une nouvelle loi de bioéthique préparée par des états généraux en France de la bioéthique qui vont écouter tous les acteurs de la société concernés par le vivant, c'est-à-dire au fond tout le monde, mais avec aussi des spécialisations, les médecins, les patients, les juristes, tous ceux qui et celles qui ont affaire avec les règles concernant justement l'usage des corps humains dans une société, notamment dans une société démocratique, et même seulement dans une société démocratique, les autres ne se posant pas ce genre de questions. Au moment donc où les débats de bioéthique reviennent, il faut se demander comment se construit la bioéthique. Pourquoi a-t-elle une histoire ? Pourquoi est-elle évolutive ? Et au fond, il y a deux erreurs à éviter. D'une part, l'erreur de penser que la bioéthique pourrait être figée une fois pour toutes. Il est clair qu'il y a des principes intangible de bioéthique. Il y a des principes qui peuvent d'ailleurs entrer en contradiction. Il y a d'abord le fait de lutter pour la vie contre la mort, de pondérer les bénéfices d'un traitement contre sa souffrance, contre ses inconvénients. C'est l'éthique des risques et des bénéfices de la médecine. Et puis il y a l'éthique fondamentale du respect de la personne et de la liberté humaine. Ces principes sont intangibles. Et bien entendu, et il faut affirmer des principes, même s'ils entrent en contradiction. Et là, on pourrait être dans le débat classique du conflit des valeurs dans une société démocratique. Mais il y a aussi des évolutions techniques qui posent des nouveaux problèmes. Ce serait évidemment déjà reconnaître qu'il y a besoin d'évolution, mais on ne peut pas réduire ces évolutions à des évolutions techniques. Bien entendu, il y a par exemple la procréation assistée qui est rendue possible médicalement. On peut maintenant engendrer des enfants autrement que par ce qu'on appelait autrefois naturel, la rencontre sous la couette, comme on dit aussi, de gamètes masculins et féminins qui peuvent permettre la conception puis la naissance d'un être humain nouveau. Mais aujourd'hui, ces techniques font différemment et donc cela nous oblige à des nouveaux arbitrages entre d'un côté le respect de la vie et d'un autre côté le respect de la liberté, de la demande par exemple des patients. Et il peut y avoir des visions du monde qui s'affrontent et la bioéthique doit concilier aussi dans une société pluraliste, d'éthique toute légitime et raisonnable, mais plurielle, concilier, apaiser le conflit, la dispute possible entre ces éthiques. Mais il ne faut pas croire non plus, et c'est pourquoi ce serait une erreur partielle, que l'évolution est purement technique. En réalité, pour répondre à des défis nouveaux, il faut aussi des catégories nouvelles. Et la bioéthique, notamment en France, mais partout, avance aussi, se construit non seulement par de nouveaux problèmes, mais par de nouvelles catégories. Ainsi, la catégorie du don, par exemple. La catégorie du don est aussi ancienne que l'humanité, mais la bioéthique lui donne un sens nouveau. Le don, en effet, répond à un défi, par exemple, le transfert des parties du corps humain d'un humain vers l'autre pour lui sauver la vie. Bien sûr, on peut dire, il faut lui sauver la vie, donc on va prélever un organe sur un humain décédé, par exemple, pour en sauver un autre. Mais en même temps, il y a le respect de la personne dont le corps, dans la loi humaine, fait partie. Le corps n'est pas un bien. On ne peut pas voler un organe, on ne peut pas le vendre, on ne peut pas le prendre ni par la force ni par le commerce. Alors le don est devenu une catégorie majeure de la bioéthique. C'est la seule manière de transférer une partie du corps d'un humain vers un autre sans violence. Le don est donc aussi une invention de la bioéthique. La bioéthique se traduit par des catégories nouvelles. Elle a une histoire, c'est une création morale et démocratique.
Merci Frédéric et merci à toute l'équipe, Carla Michel, Axel Dubois, Nafelpin, Antoine Ravon, Nassim El Kabli, Corinne Amar et Luna Hajla, à la réalisation Nicolas Berger, à la lecture des textes Colin Gruel, à la prise de son Anthony Thomasson. Toutes les émissions sont à retrouver sur le site et sur l'application Radio France.